une vidéo, enfin un son qui venait d'une vidéo de Isabelle Padovani. Donc peut-être tu peux rappeler le titre. Bonjour Latika.
Bonjour Aline.
Et bonjour auditeurs, auditrices. Ah oui, vous écoutez Radio Diwa aussi sur le 107.5 ou sur rdwa.fr. Voilà, on est en direct là dans le Diwa et sur internet. Et puis bien sûr, vous retrouverez cette émission en podcast une fois qu'on aura fini. Hein. Attendez qu'on finisse quand même pour pouvoir la télécharger. Oui, alors le son de la semaine dernière, tu t'en rappelles
ouais.
de tête ?
Ouais, ouais. Donc le son, il s'intitulait en fait « Se libérer des jugements, une vision non duelle de la communication non violente ». Donc en fait, Isabelle Padovani parlait beaucoup de la communication non violente dedans. Et il y avait plein d'idées, c'était assez riche. Moi, il y en a une principale que j'avais envie de réévoquer. Mais ouais, elle parlait du jour du jugement dernier où en fait on n'acceptait plus d'avoir des jugements qui nous traversent sans les traduire. Et en CNV, traduire un jugement, ça veut dire le traduire en besoin en fait. C'est beaucoup plus parlant avec des exemples, mais bon, voilà. Bon, par exemple, un jugement « t'es un con », c'est plutôt « j'ai besoin de respect ». Voilà.
Ouais, ouais, c'est des... Donc on attend vos réactions aussi hein, sur cette vidéo. Vos réactions ou bien vos expériences personnelles aussi. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? Qu'est-ce que ça évoque comme situation pour vous? Et puis bon, pour parler rapidement du programme d'aujourd'hui, on a prévu d'encore écouter quelques sons deux vidéos, enfin deux audios d'Isabelle Padovani. Tu veux encore revenir sur ce qui s'est dit la semaine dernière ?
Pas forcément.
Bon,
peut-être plutôt juste revenir plutôt sur la communication non violente, ça sera peut-être plus simple.
Alors moi j'avais une question par rapport à ça, parce que du coup Isabelle Padovani, on a reparlé avant cette émission, utilise un vocabulaire toi, tu m'as dit qu'il est bien à elle. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est un vocabulaire qui est partagé par la communication non violente?
Voilà. Ben, elle a il y a le vocabulaire qui est lié à la communication non violente. Et puis c'est vrai qu'il y a elle aussi, par exemple, quand elle parle du père et du fils, ça c'est plutôt elle. Ou quand elle parle de l'arrière-plan, de l'avant-plan, c'est plutôt ce qu'elle amène elle. Voilà. Mais c'est vrai que ça demande soit d'en parler, soit de l'écouter et de réécouter ces vidéos. Parce qu'elle explique bien toutes ces notions et à la fin ça devient assez fluide, mais peut-être au début ça peut rebuter un peu effectivement ces notions de père et de fils et d'arrière-plan et d'avant-plan et
comment on pourrait dire, que c'est des plans de notre psychologie, de notre psychisme, non, de ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ce qu'on est, que c'est comme si on mettait une image sur le voilà le moi qui, enfin comment dire, ce qu'il pense en moi et qui regarde ce qu'il ressent en moi.
Ouais.
Enfin, une partie en moi qui ressent et une partie en moi qui peut observer ce que la partie qui ressent.
Voilà, ça peut être ça. Enfin, différents plans, en fait. Et je pense qu'on sent tous qu'on est parfois dans un plan, effectivement, de retrait, d'observation, et puis parfois plus impliqué dans la situation. Ouais.
En tout cas, une leçon que je trouve intéressante, c'est qu'elle dit qu'on... Alors si je le dis avec mes mots, sans utiliser les mots père et fils, c'est qu'on peut ne pas être triste de la tristesse qu'on ressent. Enfin, on peut d'abord être triste, mais à un moment, prendre une distance sur cette tristesse et faire un retour sur soi et s'observer en train d'être triste,
ouais.
En acceptant aussi cette tristesse. Mais,
ouais.
Mais on s'entend cette fois de l'empathie envers la personne en moi qui est triste ou qui souffre.
C'est la différence en fait entre dire je suis triste ou alors il y a une tristesse qui me traverse. Quand je suis triste, je suis complètement absorbée dedans et il n'y a plus que ça. Et quand je dis j'observe qu'il y a une tristesse qui passe, j'ai une vision beaucoup plus large quoi. Et juste je sens cette tristesse qui passe.
Ouais. Super, j'ai coupé quelques micros en plus. Donc si parce que, bonjour tout le monde dans le studio, en fait, voilà, on est plusieurs dans le studio, de toutes les générations, on va dire même, de plusieurs générations. Alors on entendra peut-être des petits ouais, comme ça. ce sera Swan. Et oui, donc je viens de couper vos micros en fait pour assourdir un peu, pour qu'on ait un meilleur son. Mais donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à nous faire des grands signes pour que je monte vos micros. Voilà, ce sera bienvenu. Mais on va continuer là, pour l'instant. Donc, oui.
Alors. Ouais. Donc juste, on peut peut-être dire reparler un petit peu de la communication non violente parce que c'est un des thèmes principaux là de Isabelle Padovani. Et juste dire qu'en fait la CNV c'est un processus, c'est une pratique en 4 étapes dont je pourrais parler après. Et en fait c'est Marshall Rosenberg. Il dit pas qu'il a inventé cette technique. Il dit juste qu'il l'a mis à jour quoi.
Il l'a retrouvé, ouais.
Voilà, ouais. C'est ça. Et en fait, lui, il a créé un centre pour la CNV. C'est un Américain qui est né en 34. Il a 80 ans aujourd'hui. Et il a créé un centre pour la CNV en 66 déjà. Et depuis, c'est vrai que lui, il n'arrête pas de parcourir le monde. Il fait des conférences, il fait des ateliers. Il est même assez intervenu dans le conflit israélo-palestinien à des moments ou avec l'ex-Yougoslavie pour aider les gens à communiquer, quoi.
Ok. Je sais que dans la guerre de Yougoslavie, il y avait une partie de la guerre en oh mince, je me rappelle plus, je vais dire des bêtises, dans je sais plus quel pays qui était particulièrement qui avait particulièrement travaillé la communication non violente et qui a pu traverser des périodes de conflit en ayant plus de capacité à résister et à préparer l'après-guerre.
Mmh. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu le but final, enfin. Ouais. Et donc, en fait, Marshall Rosenberg, lui, il dit que nous sommes tous un peu chacal et un peu girafe. Ça, c'est justement des termes CNV. Bon, ça, c'est les symboles de la CNV. Bon, le chacal, c'est assez parlant. Comment on peut être chacal, les uns envers les autres. Et la girafe, en fait, c'est le symbole du langage CNV. Parce que la girafe est l'animal qui a le plus gros cœur. Parce qu'elle a un très long cou et du coup, pour pomper le sang, pour le faire monter jusqu'au cerveau, elle a un gros cœur. Et voilà, le langage girafe, bah, c'est le langage CNV. Et le langage CNV, une des choses principales, c'est de parler en jeu.
En jeu, alors jeu où on s'amuse ou jeu moi ?
J-E.
D'accord, c'est-à-dire pour parler de soi.
De soi.
Plutôt que de parler de l'autre, en fait.
C'est ça, c'est ça. Plutôt que de parler l'autre en tu ou alors de parler en on, mais parler en je. Et donc ces 4 étapes de la CNV, en fait, pour les évoquer rapidement là, en fait c'est premièrement l'observation des faits, objectivement, voilà. Ensuite c'est les sentiments qui sont induits par le stimulus, par la situation, mes sentiments. Ensuite, troisième étape, c'est mon besoin ou mes besoins en lien à la situation. Et la dernière étape, c'est la demande d'action qui en découle. Mmh. Voilà, on peut, pour s'en souvenir éventuellement, penser à OSBD, c'est-à-dire l'observation, les sentiments, les besoins et la demande.
Ok, afin de continuer la relation. Enfin, c'est la relation qui est en jeu. Je trouve dans un des audios qu'on vous a prévu pour aujourd'hui, si on a le temps de vous passer, hein, si vous n'appelez pas trop, ou si nous même on ne parle pas trop.
Appelez.
Mais bon, n'hésitez pas, je rappelle le numéro de téléphone, 0952 368 531. Je ne sais même pas où. Ah si, le téléphone est à côté, c'est bon, on pourra vous prendre en ligne. Mince, je sais plus ce que... Dans cette deuxième vidéo, en fait, il est beaucoup question de la relation, de soigner la relation. Mais c'est quand même ça, dans ce qu'on vous a passé la semaine dernière, qui est en jeu. Et alors, est-ce que tu voulais prendre un exemple pour, où c'était pas...
Oui, on peut prendre un exemple, mais... Juste dire que ces 4 étapes, effectivement, c'est soigner la relation. Mais moi, je dirais que c'est soigner déjà la relation à soi, enfin, de soi à soi. Parce que le plus important, en fait, c'est d'utiliser ce processus déjà avec soi-même. Puis après, dans un deuxième temps, effectivement, dans la relation. Mais c'est vrai que la CNV aussi peut être, mal utilisée, en fait. Voilà.
Ça, c'est ce qui est évoqué à la fin. De toute façon, la vidéo qu'on vous a passée la semaine dernière, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur rdwa.fr, sur Radio Medium numéro 8. Il y a tout simplement l'adresse de... internet de cette vidéo et vous pouvez la retrouver. Et donc vers la fin de la vidéo, il y a effectivement cette question qui est qui est évoqué de façon humoristique, hein, je crois me souvenir, de dire oui, bah, si vous mettez à parler communication, avec le langage communication non violente, un peu tout le temps dans votre vie, avec, en faisant ces quatre étapes un peu de façon mécanique, bah, du coup, ça va agacer votre interlocuteur et ça va avoir l'effet inverse pour une méthode qui veut faciliter la relation ou la communication, d'arriver à ne pas. Et donc, elle dit à ce moment-là que, en fait, c'est aussi un outil, enfin, ou c'est d'abord peut-être un outil qu'on tourne vers soi, comme tu viens de nous le rappeler, pour déconstruire des choses, des attentes, des jugements, des automatismes. Voilà.
Mmh, exactement. Et donc, je ne sais pas si ça te va, mais on peut peut-être lancer le premier audio. Qui va peut-être nous aider à nous détendre d'ailleurs, qui est goûter la détente que nous sommes. Oui. Et après, il y a deux points, réalité de la nature du désir. Voilà. Et puis, on pourra en parler après.
Hein. On commence dans quelques secondes.
D'accord. Justement, ça parle de la bienveillance.
Pour moi, la phrase clé, c'est n'a rien à voir avec toutes les autres aspirations spirituelles. C'est est-ce que je suis doux avec moi en ce moment? Est-ce que je suis tendre avec moi en ce moment? Comment je me traite? Bon, ce matin, j'ai appelé Sandra. J'ai dit, ma chérie, je parle de quoi aujourd'hui? Je demande sur de quoi je dois parler. Elle m'a dit, ça serait bien si tu parlais de la bienveillance envers soi-même.
Okay, d'accord.
Mais c'est la seule chose, effectivement. Parce que tout ce qu'on cherche, nos aspirations, quelles qu'elles soient, au fond, mais c'est pour goûter un confort. Qu'est-ce qu'on veut quand on dit « je voudrais ceci, je voudrais cela » Si j'interroge n'importe qui, au bout de quatre questions, alors on va me dire « on va arriver à ben, « je serai heureux, je serai joyeux ». Ok ? Et qu'est-ce que ça te permet de goûter quand tu es joyeux ? Eh bien, « ah !» Et c'est quoi dans le corps ?« Ah !» Ça se détend. On veut juste goûter de la détente. Mais pourquoi on veut goûter de la détente? Parce que nous sommes la détente. Nous sommes un espace. Cet espace qui nous entoure et qui est en même temps l'essence de ce que nous sommes. Jésus disait, le Père est autour et en moi. Hein, il est à la fois tout autour de moi et il est à la fois en moi. L'essence de ce que nous sommes, c'est à la fois cet espace dans lequel tout apparaît, et c'est l'essence même, la substance de toute matière. Et entre les deux, il y a cette sorte de matrice, cette calcification égotique, hein, la matrice. Et les qualités, en fait, de cette source, elles passent à travers cette matrice, elles capillarisent cette matrice. Donc, en permanence, on sent la qualité de ce qui est là, et c'est une qualité de tranquillité. C'est complètement tranquille. Et il y a des situations, j'ai vécu d'ailleurs hier soir, il y a des situations où des fois quelqu'un peut être complètement stressé pour diverses raisons. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'aider à goûter à ce moment-là, à s'établir dans cet espace. Ce qui s'appelle darshan en Inde, c'est quand quelqu'un qui sait complètement s'absorber dans cette tranquillité, absorbe quelqu'un d'autre dans cette tranquillité. Mais c'est pas le but. Bon, ça, ça survient par moment. Mais ce que nous cherchons tous, c'est cette complète... Je vous l'ai dit depuis hier, nous cherchons à communier. Le Père et moi ne faisons qu'un, disait Jésus, et nous cherchons à chaque instant à goûter une unité entre ce qui est autour de nous. Ce qui est autour de nous et ce qui est au cœur de nous cherche à se rejoindre à chaque instant. Et entre les deux, il y a cette matrice conditionnée qui est ce qui permet le jeu du quotidien, le jeu de la relation. Ce n'est pas une erreur, hein. Il n'y a aucune erreur. Mais simplement, il y a une conséquence. C'est que cette structure, elle est beaucoup plus rigide que toute la douceur qui l'entoure. Et cette rigidité qui permet de goûter à chaque fois que cette sorte de membrane de notre identification, à chaque fois qu'elle est traversée dans un sens ou dans l'autre, on goûte notre existence, on goûte l'intensité. C'est ça qui fait qu'on goûte notre existence. C'est qu'il y a cette matrice. Sinon, il n'y aura plus personne pour la goûter. Mais ça a une conséquence, c'est que ça altère notre perception de la tranquillité, de la détente et de la douceur. Et donc, on croit, par exemple, que tout le phénomène, tout le principe du désir, on croit que quand j'aurai cet objet, je serai bien. En fait, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que pendant que je veux cet objet, comme mon attention est tendue vers l'obtention de ça, je ne goûte plus cette détente. Et au moment où j'ai cet objet, pendant un bref instant, « Ah, ça y est, je l'ai trouvé dans le magasin, je l'ai. Ah. » Quand j'obtiens ce que je veux, quand mon désir est nourri, pour un instant, je reviens à goûter la paix que je suis. Mais qui était déjà là avant que ça n'apparaisse. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, beaucoup de traditions spirituelles parlent de travailler sur les désirs. Mais ça ne s'agit pas de supprimer les désirs. Les désirs, il n'y a pas de problème. Ils peuvent apparaître. C'est simplement avoir cette conscience, comme pour une boussole, que la flèche de la boussole, elle va toujours pointer une direction. Mais avant d'aller dans la direction que pointe la boussole du désir de l'instant, est-ce que je peux un instant faire retour, comme disait Jésus, et me retourner au centre et goûter pour une seconde que tout est déjà atteint, hein, comme dit Thich Nhat Hanh, je suis arrivé, je suis chez moi, il n'y a qu'ici maintenant, bien tranquille, vraiment libre, dans la terre pure, je m'établis, c'est tout est là, tout est là, tout est plein, tout est ici. Et maintenant, quand je vais vers ça, c'est par jeu, par élan, c'est pour m'amuser, mais pas parce qu'il me faut ça pour être bien. Et en même temps, sous-titrage, quand va arriver le moment où je vais aller vers ça parce que je crois que c'est pour être bien, c'est ok, je vais simplement observer, tiens, l'enfant moi fait un grasping sur un objet. Et je ne suis pas dupe à ce moment-là, je vais moi très
Bon voilà, c'est comme ça, ce son se termine de cette façon un peu abrupte. Moi j'avais envie de revenir sur cette histoire de jugement, c'est vrai elle explique très bien ça, mais c'est quand même ambivalent, parce que quand on dit qu'on ne doit pas juger, en fait, on a presque l'impression qu'on ne doit pas avoir d'avis, et en fait c'est pas ça quand même dont il s'agit, quoi, mais que... j'ai l'impression, moi, que le processus tel que je le comprends et que je le découvre aussi, hein, je connais pas tellement la communication non violente plus que par des ondits ou des rumeurs. Et puis là, d'avoir écouté ces quelques sons d'Isabelle Padovani, qui est peut-être une version, peut-être qu'il y a d'autres manières, d'autres approches de la communication non violente que Isabelle Padovani aussi. Ou, enfin, on peut se référer à Marshall Rosenberg, qu'elle cite d'ailleurs. Ou tout ça, mais c'est que c'est de porter un jugement sur l'autre qui nous sépare de l'autre, et ça nous empêche pas, c'est un processus pour pouvoir avoir un avis plus net sur la réalité qui nous entoure, donc quand même à un moment pouvoir avoir des avis, quoi, avoir des choses qu'on accepte et des choses qu'on n'accepte pas. Par exemple, dire ça je l'accepte ou ça je l'accepte pas, mais quand on arrive à cette étape, c'est plus du jugement. En fait, quand on dit faut se méfier du jugement, j'ai l'impression que c'est le jugement à l'emporte-pièce un peu, ou la première chose qui vient, de regarder l'autre plutôt que de regarder ce que nous fait l'autre. Et il y a des moments parce que du coup on va parler d'un petit exemple. On avait décidé ça avant l'émission.
Tu parles de l'audio précédent, en fait, hein.
De l'audio de la semaine dernière.
C'est ça, ouais.
Ouais. Oui, je voulais revenir sur cette notion de jugement, mais je pense qu'on aura plein d'occasions d'y revenir. Et dans le petit exemple qu'on a préparé, il y a cette ça intervient, cette notion de jugement, ou en tout cas on peut le dérouler, ce petit exemple. Et puis, c'était maintenant ? Non, c'était plus maintenant, je ne sais pas. Dis-moi.
Si tu veux. Alors, non, on cherchait tout à l'heure juste un exemple pour décrire ce processus en quatre étapes, parce que c'est plus parlant avec un exemple. Et on disait donc, alors les faits, par exemple, quand on se donne des rendez-vous et que tu arrives à chaque fois en retard, ça c'est un fait objectif. Voilà, et après on essayait de chercher quel est le sentiment, et donc on disait je me sens désemparée, agacée, énervée.
Ouais, et donc avant même ce sentiment, j'ai l'impression que le jugement, c'est avant ça qu'il intervient comme, mm-hmm. Comme une sorte de faire automatiquement quelque chose qui est de porter un avis sur l'autre sans observer ce que ça me fait à moi de que tu sois en retard.
Et à ce moment-là, on va lui parler en tu et éventuellement l'insulter.
Voilà, ouais, t'es toujours en retard, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est juste avec nous, qu'il a des raisons bien particulières, il a ses raisons et tout ça d'être en retard, mais on va lui attribuer des qualités négatives.
Et là, on est chacal.
D'accord, ok, c'est là. C'est là qu'on est chacal. Mais dans le processus de communication non violente, c'est pour ça que tu es passé directement à la deuxième étape, toi. C'est
voilà. Bah oui.
En fait, mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a cette libération du jugement. C'est entre la première et la deuxième étape, entre ce qu'on observe, mais même avant, puisque pour observer de manière photographique, il faut déjà avoir abandonné l'idée de juger, puisque si on pose un jugement, on ne prend pas une photo de ce qui est en train d'arriver.
Il y a des audios ou des vidéos où Isabelle Padovani parle de l'instant premier et de l'instant second. Et le jugement, en fait, il est à l'instant premier. C'est la première réaction, quoi. C'est ce qu'on ne contrôle pas et qu'on ne contrôlera jamais. Parce que des jugements, on en aura toujours et on ne cherche pas à les éviter, en fait. L'instant premier, on ne peut pas le maîtriser.
Mais par contre, on peut juste fermer sa bouche.
Si on peut, si c'est possible.
Ça, on peut y arriver.
C'est pas toujours possible. Enfin, en tout cas, au niveau de la pensée, c'est pas forcément possible. Voilà, quoi. Ouais. On a quand même des t'es un con qui vient assez facilement. Quoi.
Ouais.
Voilà. Et ça, en fait, le but, c'est pas de l'enlever, ça. C'est pas de. Voilà, ça, c'est de l'observer simplement.
Et de ne pas l'utiliser. Le but, par contre, c'est de ne pas l'utiliser pour construire la relation avec l'autre. Enfin, de ne pas l'utiliser de façon brute.
Si possible. Voilà. Sachant que l'instant premier, on le maîtrise pas. Enfin, voilà.
Ok, ouais.
Donc, si on revient au processus, donc on observe les faits. Effectivement, ça demande déjà un certain recul, quoi, d'observer les faits. Donc, quand tu arrives en retard à chaque fois qu'on a un rendez-vous. Et ensuite, on essaie de mettre des mots et des bons mots sur le sentiment qui est généré par ce stimulus.
Mais le sentiment de soi, ce que moi je ressens quand tu me fais vivre, enfin quand je vis avec toi ce que je vis.
Quand il se passe tel... Ouais. C'est ça.
Quand tu as telle attitude, quand tu fais telle action, quand tu prends telle stratégie dans ta vie.
Voilà.
Parce qu'en fait, c'est aussi, là, on a pris un petit exemple, tu arrives en retard, mais ça peut être des trucs... moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que, en fait, ça peut aller très loin. J'ai l'impression, être en retard, ça va, c'est tranquille, mais des fois, on est en relation avec des gens qui prennent des stratégies... je dirais lourde ou importante dans leur vie, ou c'est qui mène leur vie entière dans une direction, et que c'est cette direction entière qui est stimulante, pour employer un mot qu'elle employait dans la vidéo, qui
oui, ça va jusqu'aux guerres, bien sûr.
Oui.
Ouais, tout à fait. Mais là, justement, on prenait un exemple. plutôt simple. Et en fait, hors studio, donc on essayait ensemble de voir les sentiments. Et quelqu'un disait, donc dans cette situation, je me sens déconsidérée.
Dans cette situation, on rappelle, où ça fait le troisième rendez-vous où tu es en retard, on va dire. Donc on a eu le temps d'observer, on a eu le temps on a eu le temps de porter un jugement, on a eu le temps de faire cette phase d'observation. Donc dire oui, bon, c'est vrai, c'est le troisième rendez-vous, là, j'ai bien compté. Et après, alors
et donc, en fait, quand on dit « je me sens déconsidéré », en fait, ce n'est pas considéré comme un sentiment. Parce que c'est en fait une évaluation déguisée. Quand on dit à l'autre « je me sens déconsidéré », en fait, on lui dit « tu ne me considères pas ». Et donc, on n'est pas dans le sentiment. Et donc, en CNV, en fait, y a toute une série de mots. Quoi. Par exemple, « je me sens agressé », ce n'est pas un sentiment, en fait. C'est « tu m'agresses ». Donc voilà, il faut être vigilant aussi sur essayer de revenir vraiment au sentiment. Donc là, le sentiment, c'est plutôt je me sens agacée, énervée, je me sens désemparée. Et après...
Alors le piège, ce serait de faire, pour employer un autre mot, un procès d'intention. Voilà. Alors l'autre ne nous agresse pas forcément. Ou nous considère... Ça se trouve, il est fan de nous et vraiment, il ne peut pas s'empêcher d'être en retard, mais vraiment, il nous admire. Quoi. Donc en fait, c'est un procès d'intention qui n'a pas lieu d'être.
Tout à fait. Et donc après, on va chercher le besoin... qui n'est pas nourri quand je me sens agacée, désemparée, voilà, quand tu arrives en retard. Quoi. Et donc là, on disait que ouais, là, dans ce cas-là, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de considération, j'ai besoin de respect. Voilà, parce que moi-même, je m'organise pour être à l'heure et bah voilà, j'ai besoin de sentir que l'autre s'investit aussi de la même façon, quoi, pour que le rendez-vous puisse avoir lieu, quoi.
Et que la relation puisse continuer.
C'est ça, ouais.
Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas, qui transparaît dans la relation, c'est dans la vidéo de la semaine dernière, c'est cette idée de séparation, d'individus séparés ou d'individus reliés ou d'être reliés.
Mmh.
Et j'ai l'impression que dans la communication non violente telle que je la découvre pour l'instant, la relation est prioritaire,
c'est ça,
ou première, ou en fait on le sait pas, mais on est relié.
Voilà.
On a juste à le découvrir, mm-hmm, et à essayer de mettre en pratique cette reliance. Je sais pas si on peut.
Voilà. Et ce qui permet de sentir cette reliance, c'est justement de se retrouver au niveau des besoins. On peut pas se retrouver au niveau de nos sentiments parce qu'on aura tous des sentiments différents, etc. Ni au niveau de notre vécu ou
nos stratégies.
Ouais, par contre, on peut se relier au niveau de nos besoins parce qu'on a tous les mêmes besoins. Et là, donc, on se retrouve dans l'humanité, quoi.
Mais ça veut dire qu'il faut réévaluer, pour moi, comme je le comprends, la notion de relation. C'est-à-dire que si à un moment des stratégies sont différentes, on peut dire on va rester en relation, mais la relation va se transformer.
Mm-hmm.
En fait, je peux ne pas accepter comment tu te comportes, mais malgré tout rester en relation. Ce qui fait que c'est, moi, ça me paraît très très dur, quoi. Enfin,
rester en relation ou pas.
C'est ça. Alors en fait, ou pas, mais quand même, on sait que dans le fond, on est une peut-être un peu la dimension spirituelle d'Isabelle Padovani. On est un
on
tout.
On sait qu'on on est
unis.
On fait partie de l'humanité et des humains et qu'on a effectivement les mêmes besoins et que même quelqu'un dont on décide d'arrêter la relation pour X raisons, et ben oui, on est effectivement relié à lui par cette humanité.
Mais grâce à la communication non violente, on peut arrêter la relation sans, j'ai l'impression, pour des bonnes raisons, ou essayer de décortiquer les, enfin c'est un outil qui a l'air de, pas en s'engueulant en tout cas, ou pas en se fâchant à mort, mais en faisant les choses plus...
En mettant des mots.
Plus calmement. Et quand on dit arrêter la relation, du coup, c'est aussi une façon de la transformer. Peut-être que...
Ça peut, ouais, ça peut. Mmh. En tout cas, en mettant des mots, c'est vrai que ça change tout, quoi.
Mmh.
Mmh. Et donc, pour finir ce processus, on arrive après à la demande. Là, on a fait l'observation, les sentiments, les besoins... Et ensuite, on arrive à la demande qui pourrait être, par exemple, je sais pas, Aline, si tu as une idée, quand on a dit tout ça, quand tu arrives toujours en retard, que je me sens agacée, énervée, désemparée, que moi j'ai besoin de confiance, de considération, que.
Qu'est-ce qu'on
pourrait demander à l'autre
Je peux faire une suggestion.
Voilà.
Alors, c'est de prévoir de se retrouver plutôt un quart d'heure avant l'heure où on a besoin d'être ensemble et dans un endroit où si j'arrive, je peux ne pas être sous la pluie, par exemple, donc je sais pas, dans un café ou voilà, qu'on se donne un quart d'heure d'avance et puis dans un endroit agréable où s'il y en a un qui arrive avant l'autre, il peut attendre. Et voilà, peut-être ça pourrait être un test, enfin on pourrait essayer ça.
Mmh. C'est une suggestion, après avoir ce que l'autre répond en face, ça peut être aussi juste demander à l'autre est-ce que tu serais d'accord qu'on réfléchisse ensemble à des solutions par rapport à ça. Et est-ce que toi t'en aurais une, par exemple, si c'est en plus la personne qui arrive en retard, c'est peut-être elle qui peut trouver une solution éventuellement.
Oui, c'est vrai, je me jette sur une solution comme ça, mais en fait, c'est... Ouais.
ça sera peut-être pas la solution qui va lui convenir, surtout si cette personne arrive déjà en retard et que tu lui demandes d'arriver un quart d'heure avant le rendez-vous. Mais pourquoi pas.
À propos de retard, d'horaire et tout ça, je m'aperçois qu'il est 11h30 passé. Merci à notre visiteur du lundi matin, qui est resté dans le studio. Merci auditeurs, auditrices qui nous écoutaient en direct. Alors je rappelle quand même le numéro de téléphone pour la prochaine fois, 0 952 368 531. Et puis je propose que la prochaine fois, on vous passe, c'est de nouveau un audio d'Isabelle Padovani. Alors, est-ce qu'on le passe maintenant ? On le passe maintenant. Ok, allez, on fait double dose de Radio Médium et on va prendre quelques minutes quand même pour, voilà, pour vous présenter ce qu'on va entendre. Alors, vas-y.
Ouais, donc là, c'est à nouveau Isabelle Padovani qui a une vidéo qui a pour titre « Convaincre ou se relier ». Moi, je trouve qu'il y a plusieurs idées intéressantes, et notamment, elle définit l'empathie, ce qui est assez intéressant. Elle renvoie beaucoup aussi à la vidéo de se libérer des jugements. Donc, voilà. Et puis, elle dit une chose intéressante aussi, je trouve. Elle dit que... Enfin, c'est Marshall Rosenberg, plutôt, qui dit ça. Qui dit que dans une situation donnée, c'est celui qui a le plus de moyens et de conscience sur ce qui est en train de se passer, qui est responsable à 100%. Bah, de ce qui se passe.
De la relation.
Voilà, bon, je trouve que c'est intéressant.
C'est très très intéressant. Je vous conseille vraiment de... Bon, on vous conseille, hein, on l'a choisi pour vous, alors forcément on vous conseille de rester à l'écoute. Mais en tout cas, et puis de revenir lundi prochain, et on reviendra sur cette vidéo. Si vous-même vous avez des expériences à partager, ou si ça vous, ça vous évoque des difficultés que vous avez croisées, ou vous avez trouvé des solutions, ou des difficultés où vous ne trouvez pas de solution, on peut aussi en parler, même si nous on n'en a pas de toute façon. Mais voilà, on peut mettre des mots.
Ouais, parce que nous, on n'est pas des pros de la CNV non plus. Quoi.
On n'est pas des pros de la radio ni de la CNV, vous avez vu.
On aimerait bien inviter d'ailleurs des gens qui connaissent bien, qui veulent en parler.
Oui, et puis c'est ça, c'est un appel de l'équipe de Radio Médium. Venez nous parler de, ben, là, de la CNV, mais aussi de...
Ou d'autres.
De toute chose qui vous intéresse. Eh bien, on se dit au revoir avant de lancer ce son. À lundi prochain. Et voilà, donc là, tu rappelles le titre pendant que je la lance.
Ouais, donc le titre c'est « Convaincre ou se relier ».
Bonjour, une vidéo aujourd'hui sur le thème « Convaincre ou chercher à se relier ». J'ai assisté il y a quelques jours à des échanges de commentaires sur ma page Facebook qui m'ont donné l'élan de faire cette vidéo et de partager... ma vision et la vision de la communication non violente sur que faire quand je suis stimulée en fait par quelqu'un dont je ne vois pas le comportement être l'incarnation de mes valeurs, et lorsque je vois quelqu'un dont le comportement est stimulant pour moi parce que ça ne contribue pas à nourrir certains de mes besoins les plus fondamentaux. Pour moi, le fondement et la base dans pareil moment, c'est réaliser avant tout que j'ai besoin d'empathie. C'est-à-dire, quand je parle d'empathie, parce que bon, c'est une notion qui, depuis que Rogers l'a vulgarisée auprès du grand public, reçoit des fois beaucoup de sens différents. Donc j'aimerais préciser que j'utilise dans cette vidéo l'empathie telle qu'on utilise ce terme en communication non violente, c'est-à-dire être en empathie, c'est se relier à ce qui sous-tend en fait les actions d'un être humain au niveau de ses besoins les plus fondamentaux, et se mettre à l'écoute non seulement de ses besoins mais des sentiments que cela peut faire naître en lui, que ce soit lorsque ses besoins sont nourris ou pas. En une phrase, on peut dire que l'empathie, c'est la capacité d'un être humain à mesurer l'intensité de ce qui est vécu lorsque certains de nos besoins sont nourris ou pas. Donc, lorsque je suis stimulée, touchée par les paroles, les actions d'un être humain, le premier point, pour moi, le plus important, c'est de se retourner immédiatement vers soi et de réaliser que l'autre est un stimulus à ce moment-là de quelque chose en moi qui n'est pas nourri, et donc que j'ai besoin d'empathie. Que ce soit que quelqu'un m'en offre ou que je me mette en lien avec moi et que je commence à traduire ce qui se passe en moi à ce moment-là. Or, dans le monde du conditionnement, dans le monde de la séparation, l'enfant humain n'est ni éduqué à recevoir de l'empathie, ni éduqué à savoir s'en offrir, et encore moins éduqué à savoir en demander. Donc, on se retrouve dans une situation que Marshall Rosenberg qualifie de tragique, qui est que la façon habituelle de demander de l'empathie entre êtres humains, c'est premièrement de parler à l'autre sous forme de jugement, et deuxièmement d'essayer de le convaincre ensuite de nos valeurs et de nos aspirations. Et pourquoi Marshall dit que cette façon de faire est tragique ? Eh bien parce que comme toute chose tragique, elle va entraîner exactement l'inverse de notre intention. Puisque, ben voilà, vous avez tous vécu cela, quand quelqu'un a des jugements sur vous, ça vous ferme aussitôt, et puis vous vous mettez sur la défensive, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, vous passez à l'attaque. Et puis, lorsque un être humain cherche à vous convaincre, eh bien vous savez ce qui se passe pour vous, vous avez tendance assez habituellement à camper sur vos positions, parce que vous voyez que votre point de vue, et donc les besoins et les aspirations qui sous-tendent vos points de vue, ne sont pas pris en compte. Et ça, ça ne nous convient pas, évidemment, puisque chaque être humain, à chaque instant, par ses actions, est en train d'essayer de nourrir un besoin, est en train d'essayer de répondre à un mouvement de la vie qui le traverse, et il est en train, avec ce qu'il a comme conscience et comme moyen, il a pris le meilleur moyen qui se présentait pour lui, avec à ce moment-là la conscience qu'il a, pour essayer de nourrir son besoin. Donc quand on vient lui dire que ça c'est nul de faire ça, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça nous touche très très profondément, parce que ça touche à nos aspirations. Et étant donné qu'on ne nous a pas appris à nous relier d'abord au niveau de ce tronc commun de l'humanité, au niveau de la nappe phréatique de nos besoins et de nos aspirations, on ne nous a pas appris à faire ça, eh bien on se parle au niveau de la tête, au niveau des arguments, au niveau du pourquoi ceci, pourquoi cela, et on ne se rend même pas compte du moment où on se met à avoir des jugements sur l'autre, à avoir une vision d'ennemi. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le thème du jugement, comment se libérer des jugements, je vous invite à la regarder peut-être avant de continuer à regarder celle-ci, ça vous donnera de la clarté sur ce thème. Alors, que faire face à cette situation ? Quand nous constatons que nous sommes très très stimulés, pour moi, une question qui m'a largement interpellée, que j'ai entendue dans un stage il y a 8 ans avec Marshall Rosenberg, c'était la question, en cet instant, avec cet être, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être en relation ? Et ça, c'était après, je venais de parler à Marshall pendant, je pense, un quart d'heure à l'époque d'une difficulté relationnelle que j'avais. Et en fait, ma difficulté relationnelle, c'était exactement ça. Je n'arrivais pas à faire changer quelqu'un d'avis. Et le fait que cette personne continue à fonctionner comme elle fonctionnait n'était pas nourrissant pour moi dans la relation. Donc je cherchais à convaincre cette personne. Et je vois Marshall qui me demande calmement, mais est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être en relation ? Moi, ça m'avait sidéré sur le moment parce que je lui ai répondu, mais je veux être en relation. Mais en même temps, si l'autre continue à fonctionner comme il fonctionne, j'arrive pas à être en relation. Il m'a reposé la question, est-ce que tu veux avoir raison ou être en relation ? Et devant ma mine déconfite, il m'a expliqué la suite de ce que je vais vous partager dans cette vidéo. C'est que lorsque je veux convaincre l'autre, je me coupe automatiquement de la relation. Et même si ce que je veux, c'est obtenir à un moment donné un changement dans le comportement de l'autre, ce n'est jamais en cherchant à le convaincre que ça va fonctionner. Ça va fermer l'autre, puisque je nie le précieux de ce qui sous-tend son point de vue. Donc si je ne montre pas à l'autre que je comprends, que j'arrive à me relier à ce qui sous-tend ses choix, même si je ne suis pas d'accord avec ensuite les stratégies, les moyens qu'il choisit pour nourrir en fait ses besoins et ses aspirations. Mais si je ne lui montre pas que j'ai compris, que j'ai entendu les besoins en profondeur, les aspirations, les valeurs qui sous-tendent ses choix, il ne va juste pas m'écouter parce qu'il ne se sent pas rejoint. C'est ce que les Amérindiens appellent marcher une lune dans les mocassins de l'autre. Alors mon expérience, c'est qu'il n'y a pas besoin de marcher une lune pour que l'autre se sente rejoint. Dès qu'on se connecte au niveau de ses besoins, de ses aspirations et qu'on les lui exprime, l'autre se sent rejoint, se sent compris. Sinon, si on essaye de parler parler de ce qui nous est précieux avant d'avoir entendu ce qui est précieux pour lui, il ne va rien entendre. Mon expérience depuis toujours, mais que j'ai mis en mots sous cette forme depuis que je fais de la CNV, c'est ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Ça ne marche pas d'essayer de convaincre quelqu'un avec qui on ne s'est pas relié. Alors que faire lorsqu'on voit qu'on est très stimulé par ce que nous dit quelqu'un? Eh bien, il est possible de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement qui soit un peu moins duel, qui soit un peu moins dans convaincre, hein, ce qui montre bien que ce qu'on pense de l'autre et ce qu'on cherche à faire, convaincre. Bien, on peut peut-être essayer un autre mode, non pas parce que c'est mieux ou bien, il n'y a aucune morale, mais juste à partir de l'expérience que ça ne fonctionne pas comme on fait. Donc quand vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un, même si votre intention continue d'être que vous voulez le convaincre, je vous invite à essayer autre chose. Mon expérience, c'est que ça marche mieux. La première chose à faire, c'est réaliser que vous avez besoin d'empathie. Je suis stimulée par ce que me dit l'autre, j'ai besoin d'empathie. Donc la première chose à faire, c'est je n'ouvre pas la bouche, parce que je sais que ça va être tragique. Donc soit je demande à un ami d'être en empathie avec moi, c'est-à-dire d'entendre ce qui est en train de m'agiter à ce moment-là et de m'aider à traduire les jugements que je commence à avoir sur l'autre et de mesurer l'impact de ce stimulus en traduisant tout ça sous forme de sentiments et de besoins, en m'aidant à me relier à qu'est-ce qui est en jeu pour moi quand je suis en train de commencer à penser tous les jugements que j'ai sur cet autre. Donc pour plus de détails sur ce processus de comment traduire, je vous invite à regarder donc ma vidéo qui s'appelle « Se libérer des jugements ». Donc soit j'ai quelqu'un qui se met en empathie avec moi, soit s'il n'y a personne, eh bien, je vais dans tous les cas tourner mon attention vers moi et puis regarder mais en quoi ça me touche? Qu'est-ce qui me touche si profondément dans ce que dit cet être? Et là, je vais sortir justement du mode jugeant des pensées qui tournent en boucle, qui dit « il devrait », il ne devrait pas, c'est un con, c'est incohérent, il ne comprend pas que, comment est-ce possible que, enfin, tous ces jugements qui ne mènent ni à me relier à moi, ni à me relier à l'autre, et je vais traduire ça sous forme de besoin, et voir ensuite quelles demandes concrètes je peux me faire par rapport à ces besoins pour essayer de les nourrir, sachant que la réalité, c'est que pour le moment, l'autre a les stratégies qu'il a, et en étant dans un espace intérieur dans lequel je suis en conscience de qu'est-ce que je choisis à ce moment-là. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être en relation? Parce que si je veux être en relation, quelque part, je n'ai pas d'autre choix que d'entendre ce qui est là pour l'autre. Si je continue à chercher à le convaincre, je ne vais jamais être en relation. Et donc, je vais être en non-relation avec l'autre d'une façon qui est violente. Ce qui est quelque part un paradoxe quand le thème de la discussion serait par exemple comment être moins violent avec les humains, les animaux, la végétation, le monde. Et j'observe souvent dans nos milieux de développement personnel ou spirituel que, alors même que le thème de la discussion est comment exprimer davantage de compassion, la façon d'être en communication dans les discussions à ce niveau-là est l'expression de la plus grande violence qui soit, parce qu'à aucun moment je n'accueille ce qu'est l'autre dans tout ce qu'il dit. Et encore une fois, je peux être complètement révoltée par les stratégies qu'il choisit. Mais si je veux être en relation, si je veux être en lien au cœur de l'unité avec l'autre de façon non violente, non pas parce que c'est bien, non pas parce que c'est mieux, non pas parce qu'il y a une morale qui dirait qu'il faut être non violent, mais juste parce que quand j'entre dans cette violence, c'est de moi que je me coupe. Parce que la réalité, c'est que je suis un avec cet apparent autre. Et que quand je me traite de cette façon-là, en tant que l'autre, quelque chose se ferme dans mon cœur. Et mon expérience, c'est que ça n'est pas joyeux pour l'amour que nous sommes de ne pas ouvrir notre être à la réalité intérieure de l'autre. Donc, le premier point, c'est je tourne mon attention vers moi et je réalise que j'ai besoin d'empathie. Une fois que je suis reliée à la beauté de mes aspirations et de mes besoins, alors je vais pouvoir me tourner vers l'autre. Et là, depuis l'espace où je me suis connectée à moi, je vais essayer de faire la même chose vers lui. Je vais chercher à entendre, au-delà des stratégies, des moyens qui sont les siens et qui peut-être ne me conviennent pas du tout, je vais essayer d'entendre quels besoins fondamentaux, quelles aspirations précieuses il cherche à nourrir en choisissant la stratégie qu'il choisit. Alors, des fois, évidemment, souvent, des personnes me disent « Oui, mais il y en a marre, c'est toujours moi qui dois tout faire dans la relation, l'autre, lui, il campe sur ses positions, et puis c'est toujours à moi de faire tout le job. Oui, ok, c'est pas rigolo sur le moment de vivre ce type de situation, on peut trouver ça injuste. Mais là encore, j'ai entendu un jour une phrase de Marshall qui m'avait un peu scié sur le moment, mais qui m'a mis face à la réalité, et il disait, c'est celui à un instant T, dans une situation donnée, c'est celui qui a le plus de moyens et d'une certaine façon de conscience qui est à 100% responsable de la qualité de la relation. À un instant T avec un être donné, c'est celui qui, à ce moment-là, a le plus de moyens et de conscience sur ce qui est en train de se passer, qui est à 100% responsable de la qualité de la relation. C'est-à-dire, si l'autre n'a pas les moyens de se mettre en empathie avec lui, si l'autre n'a pas les moyens de se mettre en empathie avec moi, et que j'ai envie d'être en lien, eh bien, j'ai le choix, si j'ai conscience de ça, j'ai le choix de continuer à fonctionner dans le même mode que lui, ou j'ai le choix de faire ce que je suis en train de vous décrire depuis tout à l'heure. De me mettre en empathie avec moi, de traduire mes jugements, et puis ensuite d'essayer d'entendre ce qui est là pour l'autre. Et une fois que l'autre m'a dit que oui, c'est bien ça qui sous-tend ses actions, alors là et là seulement, une fois que je suis assurée que nous avons chacun une vision claire de nos besoins, de nos aspirations, je peux lui demander s'il a envie d'entendre le partage de mon expérience. Le partage de mon expérience dont je me dis que cela pourrait peut-être lui ouvrir un nouveau champ de possibles au niveau des stratégies et des moyens qu'il choisit pour nourrir ses besoins et réaliser ses aspirations. Et bien évidemment, c'est précieux de lui demander est-ce qu'il a envie de m'entendre, parce qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ça ne sert juste à rien de parler à quelqu'un qui n'a pas envie de vous entendre. Alors bien sûr que c'est frustrant. Des fois, je me mets en empathie, et puis je me mets en empathie avec l'autre. Et une fois qu'on s'est rejoint au niveau de nos aspirations profondes, quand je demande à l'autre, est-ce que tu aimerais entendre comment moi... Parce que souvent, on va trouver à l'arrivée qu'on a très souvent des aspirations et des besoins communs. Simplement, on a des stratégies très, très, très différentes pour les nourrir. Et des fois, il se trouve que je suis super stimulée par la stratégie de l'autre. Alors bien sûr qu'à ce moment-là, j'ai envie, moi, de lui partager ma stratégie, parce que s'il adoptait ma stratégie, ça nourrirait encore d'autres besoins chez moi. Mais la réalité, c'est là que j'ai à voir si est-ce que je suis en exigence avec l'autre ou pas. Et si je suis en exigence, là encore, on est dans de la violence, on est dans une forme de contrainte sur l'autre. Est-ce que je peux permettre qu'un être humain ait d'autres stratégies que les miennes ? Ou bien est-ce que je cherche à le contraindre ? Je suis en exigence à ce moment-là. Donc, bien sûr que ça peut être frustrant qu'une fois que nous nous sommes entendus, entre guillemets, au niveau de nos besoins, de nos aspirations, peut-être des fois l'autre n'a pas envie d'entendre une autre stratégie possible. Ou peut-être une fois que je lui partage mon expérience, il me dit « Oui, je comprends que tu fasses ce choix, mais pour le moment, moi, la stratégie que j'ai me convient. » Et là, qu'est-ce qu'on va se passer, qui fait que très souvent on repasse à ce moment-là dans le mode convaincre, c'est qu'on est à nouveau stimulé. Parce qu'il y a une part de nous, des fois, qui avait accepté de faire tout ce processus de « je me mets en empathie, je l'écoute avec empathie », mais qui, au fond, avait quand même toujours comme intention de le convaincre. Et c'est là où on va voir si, en profondeur, nous voulions vraiment privilégier plutôt la relation, c'est-à-dire privilégier l'unité, à le convaincre, ce qui est privilégier la dualité. Parce que si, une fois qu'on a eu tout cet échange, qui a fait que le lien, maintenant, il a une autre qualité, on goûte plus d'ouverture, on goûte plus de bienveillance entre nous. Pour moi, c'est la plus haute forme de compassion de faire cela avec un être humain. Se tourner vers soi, se tourner vers l'autre, entendre ce qui est vivant pour chacun, et ensuite accueillir la réalité, sans chercher à la contraindre. Et si arriver au bout de tout ça, alors que la relation, elle s'est embellie quelque part, dans le sens où chacun a pu montrer sa beauté, et si au bout, eh bien, l'autre n'a pas envie de changer de stratégie, je ne dis pas à ce moment-là rester zen, parce que de toute façon il n'y a aucune obligation de rien faire, aucune injonction à quoi que ce soit, mais au contraire, à ce moment-là, eh bien, si ça vous stimule, eh bien, vous savez que ce qu'il vous reste à faire, c'est repartir pour une boucle. J'ai besoin d'empathie. Et des fois, c'est à ce moment-là que je vais réaliser qu'en fait, j'ai fait tout ce processus comme si je voulais privilégier la relation, mais en réalité, je voulais toujours le convaincre. Et là, je vais me redonner de l'empathie. Et là, quand l'autre m'a dit clairement qu'il n'a pas envie de changer de stratégie, ça ne sert à rien de revenir vers lui. J'ai besoin d'empathie. Et là, je vais aller en demander à quelqu'un qui peut m'en offrir, mais sûrement pas à la personne qui aime le stimulus à ce moment-là. Donc, voilà, il n'est pas toujours évident de vivre le lien entre êtres humains. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo, au titre un peu provocateur au départ, sur le thème « Dire quel con », c'est un, en réalité un cri d'amour frustré. De la même façon, quand on cherche à convaincre quelqu'un, c'est un signal fort pour nous que nous sommes désespérés à ce moment-là parce que nous avons des besoins qui ne sont pas nourris quand cet être humain agit comme il agit, et nous sommes en train d'essayer de nous apaiser en exerçant une forme de contrainte sur l'autre. Parce qu'essayer de convaincre quelqu'un, c'est essayer de le contraindre à changer de point de vue. Donc avoir conscience de cela va nous permettre de revenir à la paix de la seule façon qui soit réellement possible, c'est-à-dire à l'endroit où nous avons un pouvoir et nous n'avons pas de pouvoir sur l'autre. Donc la question qui va se poser à nous, si à l'issue d'une telle discussion, en s'étant offert de l'empathie, en ayant offert de l'empathie à l'autre, l'autre reste sur son point de vue, ce qui va se présenter à nous, c'est comment puis-je maintenant retrouver une paix intérieure, retrouver une joie, alors que la réalité, c'est que l'autre va continuer à agir comme il agit, et que je n'ai pas de pouvoir sur cela. Et je ne dis pas que c'est évident de trouver une réponse à cette question, mais c'est le seul endroit où nous avons du pouvoir. Sinon, nous allons arriver dans le monde de la violence, qu'elle soit vers l'autre ou qu'elle soit une violence intérieure. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques clés et de la clarté sur comment je peux être en relation de la façon la plus douce et la plus aimante qui soit envers moi et envers l'autre, et qui, dans mon expérience, est la façon qui permet le mieux de pouvoir partager nos expériences et éventuellement de faire que certaines personnes, ou moi, changions à un moment donné de stratégie. Je reste avec joie à votre écoute pour toute question suite à cette vidéo, à mon adresse habituelle qui s'affiche maintenant ou sur ma page Facebook par message privé. Au revoir et à bientôt.